Bonsoir, deux thèmes dans cette émission. Premier thème, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo Pasinya, décrète le Fonds commun de solidarité pour les écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Pour cette partie, nos invités sont Fabien Bouetoutela-Niou, directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Kinshasa Ouest. Il a participé à la commission qui a produit le texte consacrant ces fonds. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Deuxième thème, quels sont les défis qui attendent la MONUC et les autorités congolaises après les élections? Thème pour lequel le dialogue entre Congolais reçoit un invité spécial en la personne de Jean-Marie Guéhenno, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, actuellement consultant à la fondation privée Open Society Institute, basée à New York aux États-Unis et partenaire de la fondation sud-africaine OCISA. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Ce sont là les contacts habituels de dialogue entre Congolais, mais je signale que spécialement pour cette émission, nos auditeurs ne pourront pas réagir et nous nous excusons pour cela. Controverse au sujet du décret de l'archevêque de Kinshasa signé le 25 août dernier. Ce décret porte organisation du Fonds commun de solidarité pour les écoles conventionnées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa pour l'année 2009-2010. Laurent Monsengo dément la publication officielle de ce document qui, selon lui, n'était qu'un projet non encore approuvé. Le vrai décret relatif à ce Fonds commun de solidarité, il a signé hier mercredi, déclare-t-il au téléphone d'Innocent Olinga.
Il me semble que le texte de ce décret qui était un projet a été publié par un journal de la place. Nous ne l'avons pas publié à partir de l'évêché. Et dans ce décret-là, qui n'a pas été publié par l'évêché, mais utilisé par un individu, n'est pas entré en vigueur. Il y a deux décrets qui ont été signés en date du 2 septembre hier, sur lesquels je donnerai une conférence de presse.
Signalons que le projet de décret paru dans la presse a créé de remous dans les milieux des parents d'élèves en ce sens qu'il classifiait les écoles catholiques en trois catégories selon les revenus des parents d'élèves. Ainsi, la catégorie A concernait les familles aisées, la catégorie B les familles moyennes et la catégorie C les familles de la classe ouvrière. Fabien Bouetoutela-Niou, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Vous êtes directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Kinshasa Ouest. Vous avez participé à la commission qui a produit le texte consacrant ces fonds. Qu'en est-il exactement?
Effectivement, le Fonds commun de solidarité a une histoire. C'est depuis l'année scolaire 2008-2009 que son excellence, monsieur l'archevêque de la ville de Kinshasa, avait initié ce projet. Et au niveau de la ville de Kinshasa, la structure qui est chargée de gérer l'EPSP ou de réfléchir sur les problèmes de l'EPSP, communément appelée Commission urbaine, avait statué sur son fonctionnement. Et la Commission urbaine l'avait suspendue. Nous avions suspendu son fonctionnement parce que, tout simplement, qu'il y avait certaines irrégularités, notamment la création, son fonctionnement et ses ressources. Raison pour laquelle, cette année, son excellence, notre monsieur l'archevêque de la ville de Kinshasa, avait rencontré les ministres au niveau national pour essayer de lui présenter ses regrets, parce qu'en fait, pour l'archevêque, la suspension du fonds s'était faite de façon unilatérale. C'est pour la simple raison que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a bien voulu s'impliquer pour réconcilier les deux parties.
Monsieur Fabien?
Oui.
Sans vous arracher la parole, hein, dans le décret qu'a réfuté Monseigneur Monsengo, il est dit qu'il s'agissait d'une certaine catégorisation des parents, d'élèves. Et dans le décret, hein, le texte que vous avez produit dernièrement, qu'est-ce qu'il en est exactement, concrètement, en ce qui concerne les frais à payer, la catégorisation?
Non, l'archevêque n'a jamais catégorisé les écoles. C'est un faux document. Moi, je ne suis jamais entré en possession de ces documents-là qui catégorisaient les écoles. J'ai pris part aux travaux sur demande de la hiérarchie, parce qu'on devrait réconcilier la partie commission urbaine de l'EPSP à l'archevêché, de réfléchir ensemble sur les textes qui pouvaient être mis en place pour assurer un bon fonctionnement du Fonds commun de solidarité, qui du reste est une structure dont la conception est dotée de projets ambitieux qui sont à l'avantage de nos enfants et des parents, surtout les enfants démunis.
Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Je présume que vous avez un peu plus d'éléments en ce qui concerne ce fonds de solidarité. Qu'en est-il exactement et quelle est votre réaction à ce sujet?
Merci pour la parole que vous m'accordez, la parole que vous accordez aux enseignants. Et il faut dire que par rapport à ce fonds, comme le directeur venait de le dire, eh bien l'histoire, c'est que le fonds a été instauré l'année passée. Mais s'il faut faire le bilan, déjà il faut dire à ce niveau-là que les montants qui avaient été prévus l'année passée, par exemple au secondaire, c'était 90$ au niveau secondaire et puis 65$ au primaire. Mais laissez-moi vous dire que cela n'avait jamais été respecté. Les écoles sont allées au-delà des montants que l'archidiocèse avait fixé. Hein, on est allé à 250$ même. Donc de ce point de vue-là, eh bien c'était un problème, il y avait un problème. Mais de l'autre côté, il faut également dire que ces fonds de solidarité instaurés l'année passée présentaient une véritable difficulté dans la répartition parce que tout était presque opaque. Et un autre problème qui s'est posé, c'est que les écoles qui n'étaient pas à la hauteur de pouvoir percevoir 90$ ou 65$, notamment les écoles de la périphérie, vraiment avaient trouvé ce décret-là tout à fait Alors aujourd'hui, lorsque nous entendons les représentants du gouvernement, notamment le directeur provincial de l'EPSP Kinshasa Ouest, c'est un ancien préfet, il connaît les difficultés des enseignants. Laissez-moi vous dire que le décret, le fonds de solidarité, c'est une véritable catastrophe. Ça, je ne dois pas me tromper. C'est une véritable catastrophe pour l'éducation et pour les enseignants. C'est un véritable recul par rapport aux droits fondamentaux des enfants, par rapport à la décision de la CENCO de 2004, mais par rapport à la Constitution aussi. Et n'oubliez pas les objectifs du ministère sur l'éducation. Donc nous pensons que si les décrets, je suis très à l'aise quand l'archevêque dit que c'est un faux document, là ça va nous arranger, mais si le décret va s'appliquer, ça posera des problèmes. Déjà aujourd'hui, on parle de 180$, mais dans beaucoup d'écoles, je cite l'exemple du collège Notre-Dame du Congo, par exemple, à Gombe, les 180$ qui sont demandés ne sont pas respectés. Les gens parlent de 300$. Donc, l'année passée, on n'a pas respecté les obligations de la TV et personne n'avait été sanctionné, j'imagine. Mais cette année, si on revient en doublant même ces frais parce qu'on parle de 180$, ça sera une véritable catastrophe. C'est la lecture que nous faisons au niveau du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques parce que nous avons des enseignants à travers la République. Les décrets peuvent s'appliquer à Kinshasa, dans quelques écoles de la Gombe, et ça ne s'appliquera pas à Malweka, et ça ne s'appliquera pas au niveau de l'arrière-pays. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir protéger tous les enfants où qu'ils se trouvent.
Merci, voilà merci Jean Bosco Pouna. C'est un sujet très intéressant sur lequel nous allons revenir, parce que Monseigneur Monsengwo, archevêque de Kinshasa, a promis de tenir un point de presse ce samedi à ce sujet, certainement la semaine prochaine avec la rentrée scolaire. Nous allons y revenir avec beaucoup plus d'amples détails. Je vous demande juste un mot, hein, Fabien Bouetoutelano, juste un mot en guise de conclusion pour aujourd'hui, en attendant que l'on revienne sur ce sujet. Juste un mot.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais rassurer l'opinion tout entière qu'il n'y a jamais eu trahison telle que ou complot contre l'enseignement tel que vient de le dire mon frère Pouna. C'est un syndicaliste que je connais bien, il est très dynamique. Mais une chose est vraie, que le fonds commun sous la formule actuelle, c'est-à-dire la formule du document dont l'archevêque a signé les deux, c'est une structure très importante et très intéressante qui vient vraiment nous accompagner pour accomplir notre tâche d'éducation des citoyens dans notre pays.
Merci.
Vous savez, messieurs les journalistes, les enfants démunis sont nombreux dans ce pays. Et avec le Fonds commun des solidarités, sous la forme
ou sous la formule actuelle, il y a possibilité que leur éducation soit financée par l'Église catholique.
Merci, merci beaucoup, Monsieur Fabien. On s'arrête par là avec vous. Jean Bosco Pouna aussi, juste un mot en guise de conclusion, en attendant que l'on revienne sur ce sujet la semaine prochaine.
Oui, merci beaucoup. Je pense que la conclusion, c'est peut-être poser quelques petites questions. Nous nous posons des questions. Qui est finalement bénéficiaire de ces fonds de solidarité? On l'a expérimenté l'année passée. Nous avons vu que le bilan était négatif parce que ça a posé beaucoup de problèmes. Qui, en fait, est bénéficiaire de ces fonds de solidarité? Et la proposition que nous nous faisons au niveau du SINECAS, nous pensons que pour sortir de la situation, il faut prôner un débat national et public impliquant les partenaires et les bénéficiaires des services de l'éducation.
Merci.
Pour qu'enfin, des solutions durables et profitables soient prise en faveur de notre jeunesse et aussi en faveur des enseignants qui sont des formateurs.
Merci beaucoup Jean Bosco Pouna. Je crois que la semaine prochaine, on ne manquera pas de revenir sur ce sujet. Merci aussi à Fabien Bouetoutela, au directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Kinshasa Ouest.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Je rappelle que ce sont là les contacts habituels de Dialoguante Congolais, mais exceptionnellement pour ce soir, nos auditeurs ne pourront pas réagir à ces deux sujets. Veuillez nous excuser pour cela. Nous allons directement passer à la deuxième partie de cette émission. Quels sont les défis qui attendent la MONUC et les autorités congolaises après les élections? Thème pour lequel Dialogue entre Congolais reçoit un invité spécial en la personne de Jean-Marie Guéhenno, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, actuellement consultant à la fondation privée Open Society Institute basée à New York aux États-Unis et partenaire de la fondation sud-africaine OCISA. Il vient de boucler un séjour privé en RDC et il jette aussi un regard sur le bilan de la MONUC près de 10 ans après. Je vous invite à le suivre dans cet entretien avec Jean-Claude Ntumba Kamanga.
C'est Jean-Marie Guéhenno, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Guéhenno, vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix depuis 2000. Hein. Je dis ancien parce que
vous ne l'êtes plus.
Non, j'ai quitté mes fonctions à l'été 2008 et j'ai été remplacé à ce moment-là par M. Alain Leroy.
Et là, vous êtes venu en RDC depuis quand?
Je suis arrivé dimanche dernier et je suis venu pour participer à un atelier organisé par une fondation qui s'appelle l'Open Society, qui est une fondation qui agit dans le monde entier, dont l'objectif c'est d'aider les communautés nationales, les sociétés civiles dans beaucoup de pays à s'exprimer, à pouvoir débattre dans un esprit de liberté et d'ouverture au fond de l'avenir de leur pays, qui a fait beaucoup de choses en Europe centrale et maintenant en Afrique. Et donc j'étais très heureux de participer à un atelier sur un sujet brûlant pour le Congo, la décentralisation. Et ça illustre bien ce que fait cette fondation, qui s'appelle OCISA, Open Society Institute Southern Africa,
ouais.
Et qui est basée à New York, ouais. La filiale pour l'Afrique australe. Cet atelier, mais il réunissait aussi bien des grandes personnalités provinciales, par exemple M. Kimasi du Bas-Congo,
ouais, le président de l'Assemblée provinciale,
des ministres, il y a un ministre comme Olivier Kamitatou, le ministre du Plan, des professeurs, l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani. Donc c'était l'idée d'un dialogue entre praticiens de Kinshasa et des provinces,
ouais.
Et aussi entre experts, professeurs congolais. Et l'originalité de cette réunion, et moi c'est ce qui m'avait séduit, et c'est ce qui me séduit, c'est je pense qui fait l'intérêt du travail de Open Society, c'était d'être une réunion où il y avait 95% de Congolais. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des experts internationaux qui venaient disserter sur leur idée de ce que devrait être le Congo, c'était les Congolais qui discutaient entre eux de l'avenir de leur pays. Et moi, j'étais là en quelque sorte à titre d'invité, d'invité qui aime le Congo, mais j'étais en minorité, j'étais très content d'être la minorité.
Donc c'était une sorte de dialogue entre Congolais.
Exactement.
Et donc c'est sous cette casquette-là que Jean-Marie Guéhenno, vous revenez à RDC.
Exactement.
Et vous jouez quel rôle exactement dans Open Society?
Ce que Open Society m'a demandé, c'est de contribuer au fond à relayer le message de ces ateliers auprès de la communauté internationale, d'être un peu l'avocat des Congolais à l'étranger, donc de les entendre en participant à des ateliers.
Voilà. Mais Jean-Marie Guénon, quand on vous voit, vous avez quand même derrière vous une longue carrière au niveau des Nations Unies. Je rappelle, vous avez quand même été sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix. Mais alors, la MONUC, elle aura 10 ans au mois de novembre. Jean-Marie Guénon, quel bilan on pourrait dresser de la MONUC?
Vous savez, quand je réfléchis au bilan de la MONUC, je pense d'abord où était le Congo en 1999 et où est le Congo en 2009. Et là, on est rempli quand même d'optimisme, et je pense que là, on peut dire un merci à la MONUC, parce que 99, c'est un pays coupé en deux, occupé par des armées étrangères, avec des conflits épouvantables qui déchirent le pays, qui font des milliers, des centaines de milliers de victimes, ou des millions, si on pense tous ceux qui meurent à cause des conséquences de la guerre, même s'ils ne meurent pas directement de la guerre. Donc, un pays qui est dans une situation épouvantable. Aujourd'hui, énormément de problèmes, et je ne crois pas qu'il faille être complaisant, mais malgré tout, un pays qui aujourd'hui se pose des questions très différentes de celles qui pouvaient se poser en 99, donc un progrès réel. Je crois que c'est ça, c'était la contribution de la MONUC, c'est-à-dire aider à faire partir les troupes étrangères, à faire respecter le cessez-le-feu, puis obtenir le retour étrangères qui sont encore là. Ah, écoutez, bon, ça, c'est, je sais que c'est un sujet difficile.
Je crois l'air, elle est rare.
Et encore, oui, mais c'est pas comparable à ce que c'était. Donc, quand même, la présence massive des troupes étrangères, elle a disparu. Donc, ça a été un premier acquis. Ensuite, il y a eu tout l'appui au processus politique qui a débouché sur des élections. Les élections, on peut toujours en discuter, mais ça a été
on y reviendra.
Ça a été des élections libres.
Oui.
Moi, j'ai regretté, si vous voulez, qu'on n'ait pas plutôt des élections locales d'abord, parce que je crois que la démocratie, elle s'enracine au niveau local. Mais je pense en même temps que les élections de 2006, ça a été un extraordinaire geste de souveraineté nationale. C'était quand même pour le Congo qui avait besoin, au fond, de se retrouver dans un grand geste unificateur d'affirmation de sa souveraineté. Ça a été un moment historique. La MONUC a joué son rôle dans ce moment historique. Je crois que depuis 2006, le rôle de la MONUC est plus compliqué, parce que bon, il y a maintenant une souveraineté nationale congolaise, et puis la communauté internationale, elle n'a plus la même mobilisation pour le Congo. Les problèmes ont changé de nature.
C'est-à-dire que j'aurais pas fait justement aujourd'hui.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une première très grande priorité, qui est ce qu'on appelle la réforme du secteur de sécurité. En termes simples, que quand un homme ou une femme du Congo aperçoit un homme en armes dans la rue, dans un sentier, qui pense qu'ils ne sont pas menacés par cet homme. Autrement dit, que l'armée, que les forces de police aient la confiance de tous les citoyens, en dehors de toute question ethnique, et confiance dans la discipline de ces forces, dans le respect des droits humains par ces forces. Je pense que ça, c'est une tâche, c'est une demande fondamentale, il me semble, ce que j'ai entendu de Congolais, et c'est quelque chose d'essentiel. Un autre grand chantier,
vous voulez dire qu'il reste encore beaucoup à faire sur ce plan sécuritaire, sur la réforme de l'armée?
Je pense qu'il reste beaucoup à faire. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il y a un travail encore énorme à faire, parce que l'armée, elle a beaucoup été faite par absorption d'anciennes milices, et puis il y a tous les problèmes du soutien à l'armée. Quand des soldats ne sont pas payés, ou qui n'ont pas de caserne, comment voulez-vous qu'ils vivent? Comment voulez-vous que leur famille vive? Donc il y a une logique qui s'installe, qui est une logique très dangereuse. Et donc je crois que là, il y a un énorme travail à faire. Je pense que la raison pour laquelle tellement de retard a été pris là-dessus, c'est que d'abord, c'est un sujet éminemment politique, parce que qui tient les fusils tient le pouvoir, donc il faut qu'il y ait des accords profonds entre les grands acteurs politiques congolais. Et puis, je dirais aussi au sein de la communauté internationale, parce que la coopération internationale sur ce sujet, à mon avis, a manqué de cohérence, malheureusement, parce qu'il y a des rivalités, parce que chacun se dit, moi, je vais être l'ami privilégié. Et donc, la transparence, la cohérence dans les forums internationaux a manqué. Donc moi, c'est peut-être cette question de rétablir la confiance entre la population et les forces de sécurité, c'est une question centrale. La deuxième question que je verrais, c'est, je dirais, plus généralement toute la consolidation de l'État. C'est-à-dire que après des années de conflits et de malheurs, les Congolais puissent bénéficier des services publics qui sont en droit d'attendre.
Et justement, parce que j'allais vous poser la question, savoir si le plan sécuritaire seul suffisait pour ramener la stabilité de la RDC.
Non, il faut un pays où les citoyens ont confiance dans leur État. Et ça, c'est aussi un problème politique, parce que ça veut dire mobilisation des recettes dans les circuits publics. Ça veut dire aussi une culture, je dirais, de responsabilité. C'est tout le problème, au fond, du contrôle démocratique. C'est le problème de la décentralisation. L'atelier auquel je participais, comme je vous disais, c'était sur la décentralisation. Derrière ce mot de décentralisation, on se rend compte qu'il y a des attentes très diverses. Est-ce que c'est simplement une question technique, au fond, un mode de gestion? On rapproche la gestion
de la base.
Est-ce que c'est une question de partage des ressources? C'est-à-dire, les provinces gardent les fameux 40% prévus par la Constitution. Est-ce que c'est une question d'homogénéité ethnique? Est-ce qu'on découpe pour créer des structures, des circonscriptions plus homogènes, en allant de 11 à 26, avec le risque que ça ne s'arrête pas là? On n'est pas clair là-dessus.
Mais finalement, est-ce que vous pensez que la MONUC aujourd'hui peut considérer que la démocratie s'est instaurée en RDC, 10 ans après?
Je pense que la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Pour que la démocratie fonctionne, c'est pas seulement des élections. C'est justement un État qui fonctionne et qui est sous le contrôle des électeurs. Et donc, la démocratie, c'est aussi la construction de l'État. S'il y a des institutions de contrôle, mais qui n'ont pas un exécutif à contrôler parce que les services publics sont fragiles, la démocratie est inachevée. Et donc, je crois que le grand défi aujourd'hui du pays, c'est un défi de développement qui est lié au défi démocratique.
Oui. Dans une interview, Jean-Marie Guénon avec Charlie Rose, je crois que vous vous rappelez, c'est en 2007 aux États-Unis, vous avez dit que la RDC est l'un des plus grands défis, mais vous notiez un large succès avec la tenue des élections en 2006, il y a 3 ans, mais vous dites encore que cela ne suffit pas encore. Ça dit que vous pouvez le redire encore aujourd'hui, que les élections, ça ne suffit pas.
Pour moi, les élections, c'est un commencement. C'est une fondation, ça n'est certainement pas le toit, ça n'est pas la conclusion. Les élections, ça ouvre un espace politique, ça permet aux citoyens de s'exprimer, de dire ce que sont leurs besoins, mais derrière les élections, il faut qu'il y ait toute une structure publique qui se mette en place. Il faut des écoles aussi pour qu'il y ait des électeurs qui soient des électeurs avertis, qui puissent discuter des questions. Il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait l'accès à l'éducation. Il faut qu'il y ait de la santé, il faut qu'il y ait des routes pour qu'on puisse se déplacer, pour que le commerce reprenne. Donc il y a un immense travail qui va prendre du temps. Mais je pense que les élections, ça a été essentiel parce que ça a donné la parole aux Congolais. Et maintenant, il faut que cette parole, je dirais, elle soit utilisée dans un débat qui touche aux vraies questions. Et c'est là, d'ailleurs, que ce que vous faites à Radio Okapi, ce que fait la presse, d'aider en information, d'aider à focaliser l'attention sur les vraies questions, c'est vital. Parce que si on élit simplement des personnes et si on ne discute pas sur des programmes, sur les questions de fond, à ce moment-là, la démocratie est inachevée pour moi.
Et vous-même, vous avez dit que les élections, c'était une erreur, si je vous avais bien compris, de commencer par les élections présidentielles. Il fallait commencer par les locales. Parce qu'elles n'ont pas encore lieu, les locales. Hein.
Je sais qu'elles n'ont pas encore lieu. Je pense que, disons, il fallait porter plus d'efforts aussi, je pense, aux assemblées provinciales, par exemple. Je crois que on discute aujourd'hui beaucoup du pouvoir dans les provinces. C'est très important que les assemblées provinciales soient engagées dans les vraies questions des provinces. Mais qu'en même temps, disons, elles soient les pierres de fondation d'un pouvoir national. Parce que on va pas avoir des schémas directeurs, par exemple, de décider des routes dans une province si on ne met pas ça en cohérence avec un schéma national. Et donc, je crois qu'il faut une articulation entre la démocratie locale, la démocratie provinciale et la démocratie nationale. Et que si on fait seulement le sommet, on manque un élément important, un élément essentiel de l'enracinement de la démocratie dans le pays. C'est ça maintenant qu'il faut faire. À mon avis. Voilà.
Et là, je rappelle que Jean-Marie Guénon, vous parlez en tant qu'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix et qu'aujourd'hui, vous travaillez avec Open Society. Là, je le rappelle à l'intention des auditeurs. Alors, Jean-Marie Guénon, justement, fort de cette expérience au niveau des Nations Unies, la MONUC a annoncé le désengagement de ses services à l'ouest pour l'est. Est-ce que, selon vous, est-ce que cela veut dire que à l'Ouest, la situation est stable?
Je pense qu'il y a des défis dans l'ensemble du pays. Il y a des défis au Bas-Congo, il y a des défis un peu partout dans le pays. La tension militaire, elle est principalement à l'Est, donc je pense que c'est ce qui a probablement motivé les décisions de la MONUC. Mais le défi du développement, le défi de la consolidation de l'État, c'est un défi qui concerne tout le pays, qui ne concerne pas une partie du pays plutôt qu'une autre.
Parce qu'on remarque aussi, il y a une forte concentration du personnel de la MONUC à Kinshasa, où il n'y a presque pas de problème, plutôt qu'à l'Est. Votre avis là-dessus?
Ah, moi j'ai toujours été pour que la MONUC soit le plus présente possible en dehors de Kinshasa. Bien sûr, c'est important d'être à Kinshasa, c'est là que sont les autorités nationales. Mais je crois que c'est très important d'être à l'écoute de tout le pays, y compris des provinces les plus pauvres. Pensez à une province comme l'Équateur, qui est parmi les provinces pauvres du pays. Moi, je crois que quand on est les Nations Unies, on est le défenseur de ceux qui n'ont pas de voix pour se faire écouter. Et donc, il faut être présent là où il n'y a personne. Et donc, je crois que c'est important. La MONUC, c'est simplement un aspect de la présence des Nations Unies. Il y a les agences, il y a les programmes. Je crois que c'est important pour les Nations Unies, dans l'ensemble, de ne pas se concentrer simplement sur la capitale. Au contraire, voilà, d'être là où on n'attend pas les internationaux.
Ouais. Jean-Marie Guénon, la MONUC a annoncé l'arrivée de 3000 casques bleus pour renforcer ses troupes à l'Est. On sait que la MONUC dispose déjà de près de 17 000. Quel sera l'apport de ces soldats dans la consolidation de la paix dans la partie Est du pays, par exemple?
Écoutez, là, moi, je ne suis plus aux commandes du maintien de la paix.
En partie de votre expérience, justement.
Je crois que ce qui est important dans l'utilisation de la force militaire, mais j'ai scrupule à parler d'un sujet sur lequel je n'ai plus une responsabilité opérationnelle, je crois que ce qui est important dans l'utilisation de la force militaire, c'est d'en faire toujours un usage stratégique. La MONUC, qu'elle ait 17 000 hommes, qu'elle ait 20 000 hommes, elle ne sera jamais en mesure d'assurer une couverture de sécurité de tous les endroits où il peut se produire des troubles. Ce qui est important, c'est d'avoir une capacité de réaction rapide, à mon avis, d'être capable de frapper fort, de manifester l'autorité de la règle de droit contre l'usage de la force de façon décisive quand il y a une crise qui menace ici ou là. Donc d'être mobile et robuste. Je pense que la mobilité est un élément essentiel de la crédibilité dans un pays aussi grande que le Congo. Alors, je ne sais pas comment les 3000 troupes qui vont venir vont être disposées, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la mobilité des forces.
Voilà. La mobilité des forces, mais c'est vrai que vous n'êtes plus aux commandes, mais vous avez quand même été aux commandes, Jean-Marie Guénon. Des Congolais reprochent souvent à la MONUC de ne pas avoir appliqué le fameux chapitre 7 pour faire face aux agressions extérieures, aux rébellions.
Vous savez, moi j'aurais souvent voulu que la MONUC s'en fasse plus. Je ne veux pas, au fond, être le conducteur sur le siège arrière qui disent ce qu'il faut faire. Parce que la MONUC, elle a souvent été face à des choix très, très difficiles, parce que 17 000 hommes, ça paraît beaucoup, mais dans un grand pays comme le Congo, plus de 70 millions d'habitants, grand comme l'Europe occidentale, 17 000 hommes, en réalité, c'est rien. Et donc là, ce sont des choix opérationnels, des décisions qui sont prises face à une situation de crise. Est-ce que je réagis? Est-ce que j'ai les moyens de réagir dans cette situation particulière ou non? Il y a peut-être des moments où il aurait fallu réagir et où la MONUC n'a pas réagi. Mais je crois qu'avant de porter des jugements catégoriques sur ce sujet difficile, il faut vraiment examiner chaque situation particulière, avec beaucoup d'honnêteté, parce que c'est difficile. Et je pense que la force militaire, elle a, dans un certain nombre de cas, sauvé des vies. Elle était très importante pour marquer la détermination internationale. Moi, je suis très fier, en 2003, d'avoir réussi à mobiliser la communauté internationale pour empêcher que la spirale de violence continue à se développer en Ituri. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Mais en même temps, je suis convaincu que la force militaire n'est pas la réponse au problème du Congo. Je pense qu'on ne bâtit pas la paix sur la victoire des uns et la défaite des autres. Oui, on bâtit la paix sur un message fort qu'on ne règle rien par la force des armes. Et de temps en temps, quand il y a des miliciens cruels qui violent les femmes, qui tuent, qui utilisent la force pour intimidation, etc., il faut être capable de leur tenir tête, de les écraser, mais en même temps, on ne doit pas imposer la paix simplement par la force. Oui. C'est par la politique qu'on fait la paix.
Mais Jean-Marie Guénon, est-ce que vous pensez sincèrement que le mandat de la MONUC est faisable?
Je crois que le mandat de la MONUC, il a toujours été un peu au-delà du possible. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose, parce qu'il faut toujours vouloir plus que ce qu'on peut faire pour faire quelque chose. Il faut toujours avoir beaucoup d'ambition. Mais aujourd'hui, il est évident que face aux immenses défis du Congo, la MONUC, elle a des moyens limités. Mais je pense qu'elle se bat. Ce qui est très important, c'est qu'elle ait une relation de confiance, je dirais, avec tous les Congolais. Qu'elle soit vue comme un acteur impartial qui n'a qu'un parti, si je puis dire, qui est le parti de la justice, qui est le parti des droits des hommes et des femmes qui n'ont pas de pouvoir, qui sont là simplement avec l'espérance légitime de vivre une vie tranquille, normale, où ils pourront élever leurs enfants, à l'abri de la maladie, à l'abri de la violence. C'est ça le rôle de la MONUC, c'est d'être auprès de ceux qui, s'il n'y avait pas les Nations Unies, n'auraient pas d'alliés. Pour moi, ça a toujours été. C'est pour ça que je suis fier d'avoir servi les Nations Unies.
Même si vous n'êtes plus aujourd'hui.
Oui, mais justement, ça a été de très belles années. Pour moi, je pense que l'honneur des Nations Unies, c'est d'être aux côtés des faibles. C'est ça, la grandeur des Nations Unies. Alors, c'est pas toujours facile. Les Nations Unies ne sont pas toujours à la hauteur de ce rêve, je le sais bien. Mais je pense que c'est quand même la grandeur des Nations Unies, et c'est la grandeur d'un certain nombre de personnels qui servent les Nations Unies d'avoir cet idéal-là.
Bon. Vous avez dit que même s'il y aurait 3000 casques bleus de plus, vous insistez sur la mobilité. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des Nations Unies, il y a cette flexibilité, la réactivité, la volonté politique de mener à bien un mandat aussi complexe et robuste, il faut le dire, hein, que celui de la MONUC?
Vous savez, les Nations Unies, c'est une organisation qui vit sous beaucoup de contraintes. D'abord, les Nations Unies n'ont pas leur propre armée. Les Nations Unies dépendent des armées que les États qui contribuent des troupes veulent bien leur donner. Et c'est magnifique que des pays qui sont loin du Congo, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme le Bangladesh, comme le Népal, les pays d'Asie du Sud, aient bien voulu donner des troupes. C'est magnifique que les autres pays d'Afrique soient venus au Congo. C'est magnifique que des pays d'Amérique latine soient venus au Congo. Mais leur sacrifice, leur engagement a des limites. C'est pas évident de leur demander de prendre des risques, toujours plus de risques. Donc il y a cette première contrainte. À quoi sont prêts les contributeurs de troupes? Il y a une deuxième contrainte. À quoi est prêt le Conseil de sécurité? C'est-à-dire le Conseil de sécurité, donc l'organe suprême des Nations Unies en matière de paix et sécurité, où il y a 5 membres permanents, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Le Conseil de sécurité, est-ce qu'il est d'accord sur une vraie stratégie, ou bien est-ce que c'est des compromis? Si il y a des divisions au sein du Conseil de sécurité, c'est pas facile pour les Nations Unies d'avoir une stratégie claire. Donc c'est une deuxième contrainte. Et puis les Nations Unies travaillent, elles doivent travailler dans une relation de confiance avec le pays hôte, en l'occurrence avec les autorités congolaises. Est-ce qu'il y a une totale confiance? Est-ce que quelquefois les Nations Unies, quand elles ne sont pas d'accord avec telle ou telle action,
vous voulez dire que c'est une mission pas toujours facile pour nous?
C'est une mission très difficile, mais c'est une mission qui en vaut la peine.
Mais Jean-Marie Guénon, nous tendons doucement vers la fin de cette interview. Vu l'investissement important que les Nations Unies ont déjà fait pour établir la paix et la démocratie en RDC, est-ce que vous pensez que ce pays mérite toujours autant d'attention de la communauté internationale et pourquoi?
Absolument. D'abord, c'est un pays qui a souffert, je pense, plus qu'aucun pays d'Afrique. et donc je dirais qu'il y a un devoir de solidarité morale. Mais je dirais aussi qu'il y a des raisons stratégiques. Quand on regarde la carte de l'Afrique, on voit le Congo au centre du continent, et la manière dont le Congo va évoluer dans les 15 prochaines années, ça définira dans une large mesure, au fond, la direction que prend le continent africain. Parce qu'un Congo qui est sur le chemin du développement, de la paix, qui rayonne de la prospérité et de la croissance, c'est un Congo qui sera un moteur de l'Afrique. Et on le voit,
très optimiste.
Non, mais c'est une hypothèse. Un Congo qui ne se sort pas de ses difficultés, c'est un Congo qui, au contraire, pèse sur l'image internationale de l'Afrique. On dit, oh, l'Afrique, c'est les conflits, c'est difficile. Et donc, l'enjeu congolais est un enjeu immense, évidemment, pour les habitants du pays, pour les Congolais, mais c'est un enjeu pour tout le continent. Et il est essentiel, donc, à mon avis, de réussir ce combat. Et c'est pour ça que, quand vous me posez la question, est-ce que ça en vaut la peine, je dis oui, absolument, parce que c'est le sort de 60 millions d'êtres humains qui ont beaucoup souffert. Et c'est aussi, je dirais, l'avenir d'un continent qui se joue en partie dans ce qui va se passer au Congo.
Peut-être l'avant-dernière question, Jean-Marie Guénaud. À quand envisagez-vous le départ de la MONUC? Parce que déjà en 2007, toujours répondant aux questions de la journaliste américaine, Charlie Rose, vous disiez « il faut encore quelques années pour éviter de connaître en RDC ce qu'on a connu en Haïti ».
Oui, bien sûr, 10 ans, c'est une longue période. Je crois que la MONUC, elle n'a pas cessé de s'adapter depuis 1999. La MONUC d'aujourd'hui ne ressemble en rien à la MONUC de 1999. Je crois qu'il faut qu'elle continue de s'adapter. Et par rapport aux défis dont on a parlé, la réforme du secteur de sécurité, la construction de la gouvernance, la construction de l'État, il y a de grandes tâches qui attendent encore la MONUC. Je crois que la situation de sécurité est encore fragile dans un certain nombre de zones. Et donc il faut une MONUC, à mon avis, aujourd'hui plus flexible, plus légère.
Il faut réduire l'effectif.
Peut-être, et surtout il faut voir comment avoir un effectif qui soit plus mobile, plus qui s'adapte aux situations, et puis peut-être aussi développer certaines compétences, se concentrer plus sur l'aide au développement local, voir ce qui est possible. Alors je sais que les Nations Unies sont pas tout à fait organisées pour cela, mais je crois qu'il faut que la communauté internationale fasse un peu preuve d'imagination, parce que encore une fois, le défi en vaut la peine.
Je rappelle, c'est presque la dernière question, que en novembre prochain, la MONUC aura 10 ans. Est-ce qu'en quelques mots, Jean-Marie Guénaud, vous, en tant qu'ancien secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu les origines de la création de la MONUC et la raison, en quelques mots?
Vous savez qu'en 1999, le pays était occupé par les armées étrangères. Le pays était divisé en deux, coupé en deux. Il y a un accord de cessez-le-feu qui intervient, les accords de Lusaka. Il faut gérer ce cessez-le-feu, il faut gérer le retrait des troupes étrangères. Et la MONUC, au départ, c'est une mission d'observation pour gérer un accord de cessez-le-feu et gérer un retrait graduel des troupes étrangères. C'était ça, au départ, de la MONUC. Et puis, au fil des crises, il y a eu la crise de l'Ituri, il y a eu la crise de Bukavu, la MONUC s'est transformée. Et au fil aussi des négociations, de la négociation du dialogue intercongolais, etc., la MONUC s'est transformée, devenue, je dirais, une mission d'accompagnement d'un processus de paix. Donc, une métamorphose, une transformation fondamentale entre 1999 et 2009.
Quel peut être le dernier mot de Jean-Marie Guénaud?
Ouais, que
les Congolais qui suivent.
Je dirais que ça doit être un mot d'espoir et de confiance. Parce que quand on regarde la taille des défis devant soi, on peut être un peu, pas désespéré, mais inquiet de tant de défis à relever. Mais quand on voit le chemin parcouru depuis 1999, à ce moment-là, je pense qu'on peut avoir confiance. Je pense qu'en 1999, qui aurait imaginé qu'il y aurait des élections en 2006? Qui aurait imaginé que l'essentiel des... Bon, il y a encore, comme vous l'avez dit, le FDLR et le LRA, mais il n'y a plus de présence organisée de troupes étrangères au Congo. Personne n'aurait imaginé cela. Donc, il y a eu un grand chemin parcouru. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Congolais bâtissent sur ce qu'ils ont construit dans ces 10 années. Et ce qu'il faut, c'est que la communauté internationale reste à leur côté dans cet effort.
Est-ce qu'on peut donner encore?
Ça, je ne veux pas m'engager là-dessus, mais je pense que, encore une fois, la forme de cette présence évoluera, mais la transformation du Congo, elle va prendre, c'est une affaire de longue haleine, parce que après des années de conflit, le pays revient de loin.
Jean-Marie Gagnon, je vous remercie.
Merci.
Merci Jean-Claude Ntumba Kamanga et Jean-Marie Guénaud. Je rappelle juste que cette émission avait deux parties. La première avait pour thème l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo Pasinya, décrète le Fonds commun de solidarité pour les écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Et nous avons reçu comme invité Fabien Bouetoutelamio, directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Kinshasa Ouest. Il a participé à la commission qui a produit le texte consacrant ces fonds. Jean Bosco Founa, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Et pour le deuxième thème, quels sont les défis qui attendent la MONUC et les autorités congolaises après les élections? Thème pour lequel Dialogue entre Congolais a reçu un invité spécial, Jean-Marie Guénaud, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, actuellement consultant à la fondation privée Open Society Institute, basée à New York aux États-Unis et partenaire de la fondation sud-africaine OCISA. C'est la fin donc de cette émission. La réalisation était assurée par Guy Maté, assisté de Kevin Kouté et Samuel Kachak. Coordination de Ben Kabamba et mise en onde d'Eddy Marquis. À la présentation, Alain Rung et Jean-Claude Ntumba Kamanga. Bonne suite au programme sur Radio Capi.